et au verset 44. Matthieu, chapitre 13, et le verset 44. Il est dit ceci, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Amen. Et puis, nous allons lire dans la deuxième épître à Timothée, le chapitre 1er et le verset 12. Première épître à Timothée, chapitre 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 12. C'est à cause de ces choses, c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Et puis une dernière lecture, cette fois c'est bien dans la première à Timothée, au chapitre 4. Et au verset 13, première à Timothée, chapitre 4, verset 13, il est dit ceci, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Voilà. Alors, dans l'évangile de Matthieu, il est question d'un homme qui a trouvé un trésor. Puis, dans la deuxième à Timothée, Paul exhorte son collègue et ami en lui disant « Garde le bon dépôt ». Et dans la première à Timothée, toujours s'adressant à ce même ami Timothée, il lui dit « Que tes progrès soient évidents pour tous ». Nous sommes donc là en présence de trois impératifs. Il s'agit de trouver, il s'agit de garder et il s'agit de progresser. Trouver, garder et progresser. Alors on va essayer de se pencher sur ces trois impératifs, ces trois nécessités concernant évidemment notre vie spirituelle. D'abord donc l'homme qui a trouvé un trésor. Qu'est-ce que c'est que ce trésor? Il s'agit là d'une parabole. Le trésor en question représente ici le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle que nous avons trouvée, où ça? Eh bien, en la personne de Jésus-Christ. Et ce trésor, nous ne l'avons pas mérité, mais nous l'avons reçu gratuitement. Alléluia! C'est lui, Jésus, qui a mérité pour nous en donnant sa vie sur la croix du calvaire. Et j'espère que vous en conviendrez, en tout cas, si vous n'étiez pas convaincu, je voudrais que vous le soyez ce matin. Le salut, c'est un trésor inestimable. Amen. Quelle richesse, quelle grâce, quel avantage de savoir que nous avons été adoptés dans la famille divine, que nous sommes les héritiers du Père, les co-héritiers de Christ, et que notre héritage, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle, n'est-ce pas ? Dans un psaume que David a rédigé il y a bien longtemps, il dit ceci, « L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Je ne sais pas si vous espérez que dans votre famille, peut-être, un grand-oncle ait pensé à vous au moment de rédiger son testament, et peut-être aurez-vous la chance, la surprise, un jour de découvrir, eh bien, que vous avez touché le gros pactole au travers de cet héritage familial. Mais que cela arrive ou pas, peu importe finalement. Quand David parle de cet héritage, il parle de cet héritage céleste. Gloire à Dieu. Apôtre Pierre dira que cet héritage, il ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, parce qu'il nous est réservé dans les cieux. Amen. Est-ce que vous pensez au ciel des fois? Ou alors est-ce que vous vous contentez de vivre une vie, je dirais, au ras des pâquerettes, simplement préoccupé par les contingences terrestres et ne vous préoccupant certainement pas de l'éternité? Ce serait une erreur, voyez, un trésor inestimable. Et si ce matin quelqu'un n'avait pas encore trouvé, n'avait pas encore reçu ce trésor, le salut de son âme, le pardon des péchés, c'est possible maintenant. Alléluia. C'est possible maintenant, et vous pouvez vous écrier là dans le fond de votre cœur, « Seigneur, sauve-moi. Je suis intéressé par ce trésor-là. Je veux le percevoir. Je veux le recevoir. Je veux y avoir part. » Et pour cela, eh bien, repentez-vous de vos péchés. Mettez votre foi en Jésus. Donnez-lui votre vie sans restriction. Et sur le champ, vous recevrez le salut de votre âme. Alléluia. Parce qu'il suffit d'un instant pour qu'une âme soit sauvée. Amen. Il suffit d'un instant pour qu'un homme, une femme passe de la mort à la vie et reçoive la grâce de Dieu. Dans le texte qui nous occupe, là, dans l'évangile de Matthieu, cet homme qui a trouvé ce trésor a vendu tout ce qu'il possédait pour acquérir ce champ, ce fameux champ, dans lequel se trouvait, en l'occurrence, ce trésor. Bien sûr, ça ne signifie pas que le ciel soit à vendre. Non, pas du tout. Mais ça signifie que l'on doit considérer le salut comme la valeur la plus importante. Rappelez-vous de Jésus qui disait « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde ?» De gagner tout le monde. Dimanche passé, eh bien, j'étais à Brive, et là, nous avons été invités pour le repas de midi chez un couple, une famille. La dame est chrétienne, elle est convertie, et le monsieur, un homme tout à fait charmant par ailleurs, n'est pas converti, lui, voyez. Mais c'est un homme qui est parti sur le plan social, je parle, voyez, de très très bas, et qui, comme on dit, a gravé un à un les échelons de l'échelle sociale, et il est parvenu à une situation tout à fait enviable sur le plan matériel. Il a une maison magnifique, et je me suis laissé dire que ça n'est pas la seule. On voit que ses revenus sont plus que confortables. Un homme qui a réussi. Mais en le regardant, en l'écoutant, eh bien, je ne pouvais pas me sortir ce verset de la tête. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, ou le monde entier si vous voulez, s'il perdait son âme? Vous voyez, et de ce fait, parce que le salut est la valeur la plus importante, il faut être prêt à renoncer à tout ce qui pourrait nous en priver. C'est cela que veut dire cette parabole. Vous voyez, l'affaire de vendre tout ce qu'il avait pour acquérir le champ dans lequel se trouve le trésor, ça ne signifie pas du tout que le ciel soit à vendre, je le répète, mais ça signifie qu'il faut être prêt à renoncer à tout ce qui pourrait nous entraver et nous priver de la bénédiction de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui, si nous les conservons, si nous nous y attachons outre mesure dans notre cœur, eh bien ces choses-là, ces éléments-là, nous priveront immanquablement de la grâce et du salut de Dieu. Tenez par exemple le jeune homme riche, hein, dont l'Évangile nous fait mention. Cet homme apparemment se souciait quand même de son âme, puisqu'il est venu vers Jésus pour lui dire « Que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ?» Et vous savez ce que lui a répondu le Seigneur, « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, pour que tu aies un trésor dans le ciel, justement. Viens et suis-moi. » Et cet homme s'en est allé tout triste, parce que l'Écriture nous dit qu'il avait de grands biens. Pour ce garçon, l'attachement excessif aux biens matériels l'a empêché de recevoir le salut. Le texte de l'Écriture, nous ne le lirons pas, on n'a pas le temps, nous dit qu'en regardant ce garçon, ce jeune, Jésus l'aima. Mais malgré tout l'amour que Jésus avait pour lui, il n'a pas pu le sauver parce que ce garçon avait un cœur rempli par l'attachement aux biens matériels et il fut privé du salut et il est reparti tout triste. Nous avons aussi le cas d'Hérode, vous savez, Hérode, qui vivait une situation matrimoniale désastreuse, puisqu'il vivait avec la femme de son propre frère. Et lorsque Jean-Baptiste le prophète lui prêchait l'évangile, lui disant « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère », cet homme était travaillé, perplexe, il écoutait la parole de Dieu, nous dit l'Écriture, avec plaisir. Mais il n'a jamais su, ou plutôt jamais voulu rompre avec le péché, et il fut privé du salut, voyez. Et c'est vrai que non seulement l'attachement excessif aux biens matériels, mais également les plaisirs illicites, les relations illégitimes, si nous les conservons, nous priverons du salut. On pourrait parler aussi de ces Israélites, dont il est dit que parmi même les chefs religieux juifs, plusieurs, en voyant les miracles que Christ opérait, en entendant ses prédications magistrales, plusieurs là dans leur cœur ont été convaincus qu'il était véritablement le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur. Mais le texte auquel je fais référence précise, ils n'en firent pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, parce qu'ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ah, la crainte du qu'en dira-t-on ? Aïe, aïe, aïe. Beaucoup seront privés du salut, mes amis. Beaucoup s'en iront dans les tourments de l'enfer. C'est affreux, mais c'est ainsi. Simplement parce qu'ils auront eu peur des réactions de leur entourage. La famille, les amis, les collègues. Que va-t-on dire à mon sujet ? Ben, on dira ce qu'on voudra. Vous connaissez ce proverbe qui dit « Bien faire et laisser dire ». Mais ces Israélites-là n'ont pas su le faire et ils furent privés du salut. Voyez, à l'inverse de ces tristes exemples, je pense aux premiers disciples de Jésus. Jésus passait sur le bord du lac de Galilée, la mer de Galilée, et il y avait là ses marins pêcheurs, Pierre et son frère André, Jean et son frère Jacques. Et en les voyant, Jésus leur a adressé cet appel solennel, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et l'Écriture dit, et je suis très admiratif, quant à leur réaction, l'Écriture dit qu'ils laissèrent tout et le suivirent. Dites-moi, ils ont tout planté là, ces hommes, n'est-ce pas ? Ils ont tout laissé là, ils laissèrent tout et le suivirent. Voilà ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut laisser pour nous ? Il ne s'agit pas de laisser tomber le boulot. Si vous avez la chance d'en avoir un, gardez-le, mes amis. Hein. Mais il faut laisser de côté tout raisonnement, toute influence humaine, toute crainte, tout péché et tout autre intérêt qui voudrait nous priver de la grâce de Dieu et nous empêcher de trouver, puisqu'il s'agit de ça, de trouver le salut de Dieu. Cet homme, il a bien fait. Il a découvert ce trésor, il s'est dit, oulala, dans ce champ, il y a un trésor d'une valeur inestimable. Je vais vendre tout ce que j'ai. Allez, je fais le grand débarras, le grand ménage. Et avec cet avoir, eh bien, je vais acquérir, je vais acheter ce champ, et à l'intérieur de ce champ, je le sais, il y a ce magnifique trésor, et je pourrai enfin en profiter pleinement. Faites ainsi, mes amis. Toutes les entraves dans votre vie, tout ce qui vous a empêché jusqu'à présent de recevoir pleinement la grâce de Dieu, tout ce qui vous a fait hésiter alors que peut-être vous étiez sur le point de vous décider pour le Seigneur, au dernier moment vous êtes revenu en arrière, tout cela, balayez-le d'un revers de main et dites: Seigneur, je te choisis, toi, parce que tu es une valeur sûre. Les choraux de la terre passeront, quelqu'un l'a dit ce matin, je crois, dans sa prière, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Je bénis Dieu de ce que j'ai trouvé le salut en Jésus-Christ, de ce que j'ai reçu, et je ne suis pas le seul, beaucoup ont fait cette expérience au milieu de nous. La miséricorde du Seigneur a été, n'est-ce pas, une merveille en notre faveur. Et nous nous réjouissons chaque jour, même dans les temps d'épreuve. Il demeure ce trésor inestimable-là. Dans le fond de mon cœur, je suis sauvé. Alléluia. Je suis en route vers le ciel. Seulement le trésor, le salut en l'occurrence. Il ne faut pas seulement le trouver, mais il ne faut pas le perdre. Autrement dit, il faut le garder. Voyez, une fois qu'on l'a trouvé, une fois qu'on l'a reçu, il faut le garder. Dans la deuxième à Timothée, nous avons lu ce texte tout à l'heure, Paul adresse cette exhortation pressante à son collègue, à son ami Timothée, en lui disant: garde Timothée, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Je pense à ce verset de l'Écriture dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6, au verset 19, où Jésus dit: là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça mérite réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que tu considères comme important, ce qui est le plus précieux pour toi, tu vas t'y attacher particulièrement, tu vas le préserver jalousement, tu vas veiller dessus avec soin afin qu'on ne te le dérobe pas. Eh bien, mes amis, c'est ainsi qu'il faut faire concernant le salut, le trésor en question. Il est particulièrement nécessaire de veiller, de prendre garde, parce que justement, il y a un voleur qui voudrait nous ravir le trésor. Vous savez qui est le voleur? Qui est le voleur? Le diable. Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, au verset 10, dira ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ailleurs, l'apôtre Pierre va préciser: veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Eh oui, il rôde autour des chrétiens, mes amis, cherchant à les entraîner loin du Seigneur, cherchant à les faire revenir à leur vie passée. Il se frotterait les mains s'il pouvait dire: ah ah, celui-là, eh bien, il m'avait échappé pendant quelques instants, pendant quelques années, mais j'ai su le récupérer. Le voleur, il faut veiller, vous savez. Les plus belles expériences de conversion, les plus grands exaucements aux prières que nous avons pu recevoir, les plus merveilleuses bénédictions que nous aurions reçues ne sont pas une garantie suffisante. Il ne faut pas vivre sur un acquis, sur les choses du passé. Béni soit Dieu pour les choses du passé quand ce sont des choses positives. Béni soit Dieu pour ce que nous avons vécu avec le Seigneur il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans ou plus. Mais ça n'est pas une garantie absolue pour le présent et encore moins pour l'avenir. Ces temps-ci tout au moins, je lisais l'histoire des premiers rois d'Israël. Vous savez, Saül, David, Salomon. Et je suis bouleversé. Je suis même personnellement remis en question, voyez, un homme comme Salomon, que Dieu a tellement richement béni, je parle là évidemment et avant tout de richesse et de bénédiction spirituelle, Cet homme dont il est dit que lui-même aimait Dieu et qu'il était aimé de Dieu, voyez. C'était à double sens. Cet homme qui, après avoir construit le temple, va faire monter vers le Seigneur une prière magistrale, magnifique. Quelques chapitres plus loin, nous le voyons fléchir et tomber dans l'idolâtrie la plus abominable. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'il en soit arrivé là? Si bien commencer et puis si mal finir. Elle a raison, la parole de Dieu, et d'ailleurs c'est Salomon lui-même qui l'a écrit, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Il faut veiller, vous savez, il faut veiller. Dans le livre des Proverbes, ne laissez pas tracasser par les lumières, écoutez la parole de Dieu. Dans le livre des Proverbes, il est écrit ceci, « Veille sur ton cœur, plus que sur toute autre chose, car de lui viennent ou dépendent les sources de la vie. » Mon frère, ma sœur, qui que tu sois, même si, et je m'adresse cette exhortation à moi également, même si nous avons vécu des choses super, des choses hors du commun, des expériences marquantes, bénies, des éléments de notre vie spirituelle dont nous gardons un souvenir délicieux, malgré tout, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Ne te crois pas à l'abri. Ne te crois pas hors de danger. Ne te crois pas irrésistible. Ne te crois pas au-dessus du lot. Mais veille sur ton cœur afin de conserver le précieux héritage, le trésor. Veillez afin de ne pas se laisser à nouveau contaminé par le péché. Dans la deuxième épître de Pierre, laissez-moi vous lire ce texte au chapitre 2 et au verset 20. Voici ce que l'apôtre nous dira, et ses paroles retentissent comme un avertissement solennel pour chacun d'entre nous. Il ne s'agit pas de vivre dans la crainte, mais il s'agit de vivre dans la vigilance, en étant conscient, en étant lucide, n'est-ce pas? Voici ce qui est dit dans la deuxième épître de Pierre, donc, au chapitre 2, verset 20. Pierre écrit, « En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Il ne s'agit pas là d'un converti, qu'en pensez-vous? Il ne s'agit pas là de païens qui n'ont jamais rien eu à faire avec les choses de Dieu, non. Mais de gens qui, autrefois, ont connu le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais qui se sont, après avoir été retirés des souillures du monde, qui s'y sont plongés à nouveau. Ils ont connu la voie de la justice, et puis ils s'en sont détournés. Et cette parole est dure, dites. Il leur est arrivé ce qui est écrit, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. L'image est forte, vous ne trouvez pas? Elle n'est pas très flatteuse, d'ailleurs. Il est question là de chien. Et pour les Juifs, c'était un animal odieux, impur. Et il est question de truie, encore plus odieux, encore plus impur. L'image est forte, mais elle est évocatrice. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. La truie lavée et retourner dans le bon bourbier. Que Dieu nous fasse grâce pour que ça ne soit ni pour vous, ni pour moi, ni pour aucun d'entre nous ce matin, notre cas, mais que nous puissions garder, alléluia, le trésor que nous avons reçu de la part du Seigneur. Oui, nous ne sommes pas naturellement immunisés contre le péché. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, au verset 1er, il y a cette parole où il nous est dit « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, ayant les regards sur Jésus. » Alléluia. Voilà ce qui va nous aider à tenir bon, à garder, à conserver ce que nous avons reçu. « Ayant les regards sur Jésus. » Non pas sur moi-même. Si je regarde à moi, je cours deux dangers. Le premier danger, c'est d'être découragé, abattu au plus haut point, me disant « Je suis tellement misérable, je n'y arriverai jamais. » C'est un excès. L'autre risque, c'est de me croire au-dessus du panier, être trop sûr de moi. Rien ne peut m'atteindre. Au point où j'en suis arrivé, ma vie spirituelle est maintenant d'une telle envergure que je ne risque plus rien. Non ! Non, non, non. Courons avec persévérance, dit la parole, dans la carrière qui nous est ouverte, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, ayant les regards sur Jésus. Alors que Dieu, voyez, nous fasse grâce. Comment garder le trésor? Rappelez-vous ce que Paul disait à Timothée. Garde, Timothée, le bon dépôt, attention, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Béni soit Dieu pour le don du Saint-Esprit. Il est actif. Jésus l'appelle le Consolateur. Et le mot qui, dans l'Évangile de Jean, dans nos Bibles en français, est traduit par Consolateur, signifie littéralement celui qui se tient auprès de nous. Vous voyez ? C'est lui, le Saint-Esprit. Celui qui se tient auprès de nous. Il est notre aide, notre conseiller. Amen. Notre avocat, notre défenseur, il est finalement un merveilleux ami, il est notre allié. Et il nous sollicite, le Saint-Esprit. Il nous interpelle, il nous avertit, il nous convainc, il rend vivante la parole. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se soumettre à ses influences. Dieu soit béni. Et lorsque nous nous soumettons à ses influences, la chute est évitable. Gloire à Dieu. Ah, si tu veux aller jusqu'au bout, garder le trésor, il faut que le Saint-Esprit puisse encore te parler. Qu'il puisse pointer son doigt sur ta vie, dire, mon ami, ça, là, tu vois, personne ne le voit, personne ne le sait, personne même ne le soupçonne. Mais moi, le Saint-Esprit qui habite en toi, je le vois, je le discerne. Et si tu veux aller loin, si tu veux aller jusqu'au bout, il faut que ce travers qui domine ta vie soit éliminé. Alors on a le choix. On peut endurcir son cœur. On peut cautériser sa conscience. On peut refuser les évidences. Ou on peut se courber et dire, Seigneur, tu as raison. Fais-moi grâce. Pardonne-moi. Et aide-moi à sortir de ce mauvais pas. Et alors on va de l'avant, gloire à Dieu. Alors on garde, alors on conserve, alors on maintient ce que nous avons reçu. Il faut trouver, il faut garder. Et puis le troisième élément, c'est qu'il faut progresser. Eh oui, il ne faut pas toujours en rester où nous en sommes. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans la première à Timothée, Paul disait que tes progrès soient évidents pour tous. Et la question pour vous, pour moi, se pose en ces termes. Avons-nous le désir de faire des progrès? Ou alors est-ce qu'on se contente du minimum vital, hein? Seigneur, je suis installé dans le fauteuil du salut. Voilà, c'est bien comme ça. Et je ne veux pas en faire de trop quand même, mais pas en faire trop peu non plus. Je veux simplement en faire suffisamment pour pouvoir aller au ciel. Se contenter d'une espèce de SMIC spirituel, vous voyez, de minimum vital spirituel. Non, il faut faire des progrès. Toute la parole de Dieu nous y engage à faire des progrès. Dans la foi, Paul écrivait aux Thessaloniciens, « Votre foi fait de grands progrès. » Que Dieu nous aide, qu'il m'aide. Dans l'amour, toujours aux Thessaloniciens, il leur disait, « La charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » C'est merveilleux ça. Il s'aimait de plus en plus. Est-ce le cas au milieu de nous? Est-ce que nous nous aimons de plus en plus? Oui. Parce que Jésus a dit, attention, hein, dans les derniers temps, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Eh bien, vous voyez, ces Thessaloniciens, ils marchaient à l'inverse. Non seulement leur charité, leur amour, les uns pour les autres, ne se refroidissaient pas, mais augmentaient au contraire de plus en plus. Qu'il en soit ainsi parmi nous. Des progrès dans la grâce et la connaissance de Jésus. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 3, verset 18, dira « Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Croître dans la communion avec Jésus, une communion plus réelle, plus intense, plus profonde. Peut-être au début, au départ, au commencement, au démarrage de notre vie chrétienne, notre communion avec le Seigneur était légère. Nous nous contentions de quelques instants, quelques minutes de prière. Nous ne savions peut-être même pas tout à fait comment il fallait prier, mais notre cœur était tourné vers le Seigneur. Alléluia! Mais 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans après, mes amis, il faut que notre capacité de relation, de communion, je dirais d'intimité avec le Seigneur, ait pu croître par la grâce de Dieu. Croissez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Progrès dans notre caractère. Dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18, il est dit que nous serons transformés en la même image, l'image de Jésus, la personnalité de Jésus, transformée en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Il faut se poser la question quand même. Avec le temps qui passe, suis-je, en toute lucidité, devenu meilleur? Ou alors suis-je devenu pire? Ce serait un comble. Dieu désire travailler dans votre vie, la mienne, pour que notre caractère soit façonné, soit transformé, soit modelé. Vous voyez, trop souvent, je l'ai déjà dit, on s'excuse rapidement en disant « Que voulez-vous ? C'est mon caractère, il faut faire avec, quoi. » Mais non, ce n'est pas l'objectif du Seigneur. Même si quand on vient à lui, on est, comment dire ça, brut de décoffrage, vous voyez, un peu. Hein, le Seigneur veut nous façonner, nous modeler, nous transformer. Il y a cette image dans la parole du potier qui prend une masse brute d'argile et qui la façonne, une main dedans, une main dehors. Et ainsi, il travaille pour en faire un vase utile. Eh bien, c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Quand nous venons à lui, nous sommes comme cette masse d'argile, excusez-moi, informe, brute. Hein? Mais le Seigneur veut agir, veut travailler pour transformer, pour façonner, pour modeler. Et il faut avoir le courage de se placer devant le Seigneur et dire, regarde, dans tel et tel domaine, il faut encore que tu agisses. Seigneur, peut-être encore, je suis trop facilement irritable, trop facilement coléreux, trop facilement jaloux, trop facilement orgueilleux, trop facilement envieux. Seigneur, change mon caractère. Et je vous assure, il le fait. Alléluia. Mais c'est qu'il le fait. Il le fait par sa parole. Il le fait par son esprit. Et puis, disons-le, il le fait aussi par les épreuves qu'il nous fait traverser. Je disais il y a quelques jours à quelqu'un que j'avais au téléphone qui traverse des moments difficiles dans sa vie spirituelle, Vous voyez, ce n'est pas qu'elle a péché, non. Mais il y a des luttes, il y a des combats. Et je lui disais, même si ce que tu vis est difficile, crois qu'au travers de tout cela, Dieu va te former, Dieu va t'éduquer. Dieu n'est pas hors de cette situation, il est dans la situation. Il l'a permise, la situation que tu traverses, que tu vis, pour qu'au travers de ces éléments, eh bien, tu sois transformé, tu en sortes meilleur que tu n'en y es rentré. Alléluia. Oui, bien sûr, c'est facile pour moi de dire alléluia, mais quand on y est, hein, dans le feu de l'épreuve, on a envie de regimber contre les aiguillons, dire, Seigneur, mais enfin, quand même, ça suffit comme ça, ouais. Mais non, ça ne suffit pas. Dieu ne vise pas notre confort de vie. Il vise notre progression spirituelle et morale. Trop souvent, et c'est même le défaut des prédicateurs, On excite un petit peu, vous savez, comme quand on va à la pêche, il y en a des pêcheurs, on lance des appâts d'abord, pour que les poissons arrivent. Et des fois, on appâte les gens en leur disant, venez à l'évangile, tous vos problèmes seront résolus. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Oui, Dieu résout les problèmes. Mais il permet aussi des problèmes. Et il ne faut pas regimber contre les aiguillons. Vous savez, autrefois, les bœufs, on les avance, on faisait avancer à pas coup de trique, mais le gardien avait un bâton avec une pointe au bout et tac, alors le bœuf, yo hein. Et nous, des fois, on est pareil. Le Seigneur, il permet quelques pics. Oh, il le fait avec délicatesse, mais il le fait quand même. Il ne faut pas se regimber. Il faut dire, Seigneur, j'accepte ça. Et au travers de cette situation difficile, oh là là, transforme mon caractère. Pourquoi, Seigneur, tu m'as mis auprès d'un collègue qui est si insupportable, hein? Dans l'atelier d'à côté, il y a un gars, il est sympa comme tout. Pourquoi tu n'as pas permis que je sois avec lui? C'est terrible. Pourquoi mon contremaître, il me cherche toujours des noises? De l'autre côté, là-bas, il y en a un. Oh, c'est une crème. Pourquoi c'est celui-là qui est à mes côtés tous les jours? Pourquoi? Dieu l'a permis. Pour que, alors que tu as envie de serrer les poings, peut-être que tu dis, Seigneur, change mon cœur. Et il va le faire. Alléluia. Et tu vas sortir meilleur que tu n'y es entré. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu veut. Notre progression. Progresse dans notre service. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Est-il dit dans une épître aux Corinthiens. Dans l'exercice des dons spirituels. Que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Des progrès. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, il y a cette fameuse parabole des talents, vous savez. Un maître s'apprêtant à partir pour un long voyage, convoque trois de ses serviteurs. Il donne cinq talents à l'un, deux à l'autre, un au troisième. Et les deux premiers serviteurs, au retour du maître, ont été félicités et récompensés car ils avaient fait fructifier les talents confiés. Qu'est-ce que c'est que les talents? Les talents représentaient un capital important, un dépôt d'une grande valeur. Un talent représentait plusieurs dizaines de kilos d'or ou d'argent, selon les époques, entre 30 et 50 kilos. Dites-moi, 5 multiplié par 50 d'or ou d'argent, ça fait un beau capital, hein. Si vous aviez ça à la banque, vous ne seriez pas malheureux, hein. Ben, c'est ce qu'il leur remet, voyez. Donc, c'est pas rien, quoi. C'est pas une petite bricole. À charge pour eux de faire fructifier cet avoir. Les deux premiers l'ont fait et ils furent félicités, récompensés. Le troisième, il a fait un trou, il a mis le talent reçu, il l'a enterré. Et puis quand le maître est revenu, il lui a rendu en l'état. Et le troisième fut sévèrement blâmé et réprimé, car il n'avait pas fait fructifier le capital remis. Il l'avait simplement conservé en l'état. Ça signifie qu'il n'est pas suffisant ni satisfaisant aux yeux du Seigneur de vivre sur l'acquis dans le domaine spirituel. Vraiment, comprenons cela. Le Seigneur s'attend, le Seigneur désire que nous fassions des progrès et ça doit être également notre désir, notre aspiration, notre ambition pour le satisfaire, alléluia, pour le glorifier et pour réjouir son cœur de père. C'est vrai, hein? Vous qui êtes papa ou maman, quand votre gamin ramène de l'école, du collège, une bonne note, vous êtes content, non? Ah, mon fils, ma fille, c'est bien. Eh bien, c'est ce que le Seigneur nous dira un jour, si progrès il y a, il nous dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Alors, il faut qu'il y ait cette aspiration en nous. Un verset du livre d'Ésaïe nous dit, celui qui est noble Il s'agit là de la noblesse du cœur. Il forme de nobles desseins, de nobles projets, si vous voulez, et il persévère dans ces nobles desseins. Seigneur, je veux faire des progrès. Je ne veux pas m'habituer à une vie chrétienne en demi-teinte. Je ne veux pas me satisfaire de la médiocrité. Tu mérites mieux que ça, Seigneur. Tu es digne. Digne que je fasse en sorte de produire par ta grâce le meilleur et que j'aille de progrès en progrès. Et vous savez, c'est possible par sa grâce qui veut agir en nous. Oui, Dieu veut nous aider à faire des progrès. Mais il faut aussi se donner les moyens de laisser la grâce et la puissance de Dieu agir en nous pour que nous progressions. Tout à l'heure, on a lu là dans la première à Timothée, j'aime beaucoup ce passage, première à Timothée au chapitre 4, où l'apôtre dit ceci, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Occupe-toi de ces choses. » Vous voyez, il y a toutes sortes de verbes là qui sont présentés. « Applique-toi, ne néglige pas, occupe-toi, donne-toi, veille, persévère, afin que tes progrès soient évidents. » Il y a un investissement de notre part. Il y a une motivation de notre part. Il y a une ambition saine et sainte de notre part qui doit nous engager. C'est nécessaire. Même Paul disait, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, il disait, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je fais une chose. C'était la grande affaire de sa vie, une chose. Il ne courait pas 36 lièvres à la fois, une chose. Est-ce qu'il y a une chose qui prime dans notre vie spirituelle, la qualité de notre vie spirituelle? Est-ce que nous en prenons soin? Ou alors est-ce que nous galvaudons cela en disant, bon, mais il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que la Bible, la prière, les réunions et tout le reste? Non, mes amis, je fais une chose. Je fais une chose. Il faut que ce soit notre affaire, comme c'était celle de Paul. Bien sûr, il y a les contingentes terrestres. Et il faut s'y appliquer aussi. Mais elles ne doivent pas dépasser, supplanter ce grand but poursuivi après avoir reçu le talent, après avoir pu le conserver, le salut, il faut progresser. C'est vrai, je vais finir. Certains, nous dit la Bible, seront sauvés comme au travers du feu. C'est-à-dire in extremis. Tout juste. Ils auront senti la flamme passer près d'eux, sauvés comme au travers du feu. Vous savez, quand je lis ce texte, je pense à Lot. Lot, le neveu d'Abraham, il a été sauvé au travers du feu. Le feu qui est tombé sur Sodome et Gomorre, il y a échappé. Il a gardé la vie. Mais c'est tout. À part ça, lisez son histoire. Il a tout perdu. Ses richesses, ses enfants, sa femme et même son honneur. Je ne veux pas être sauvé comme au travers du feu. Je ne veux pas être sauvé comme ça. C'est certainement pas ce que le Seigneur veut pour nous. Il a d'autres plans. Il a des projets bien meilleurs. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. On nous parle aujourd'hui dans certains milieux de l'évangile, de la prospérité, mais c'est de la blague ça. Convertissez-vous, vous allez devenir milliardaire, mais c'est faux. L'abondance dont il est question là, c'est une abondance du cœur. Une question de plénitude jusqu'à ce que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Seigneur, des progrès. Ne passons pas à ce côté de ce qu'il a prévu pour nous. Il est question de certains personnages dans la Bible dont il est dit qu'ils ont annulé le dessein de Dieu à leur égard. C'est terrible ça. Dieu avait préparé de bonnes choses. Il avait, comme on dit aujourd'hui, de bons plans, de bons projets. Mais par leur comportement misérable, ils ont rendu nul Ils ont empêché, c'est terrible à dire, mais c'est vrai, le dessein, le projet de Dieu de s'accomplir, de se valider dans leur vie. Qu'il n'en soit pas ainsi. Ne faisons pas preuve de négligence, d'inconséquence ou de légèreté. Paul disait, en écrivant aux Galates, « Je suis dans l'inquiétude à votre sujet. » Est-ce que le Seigneur serait dans l'inquiétude à notre sujet? Posons-nous la question. Oh, pour cela, pour que nous puissions trouver, garder et progresser, entrons dans le programme de Dieu. Amen. Seigneur, travaille dans ma vie. Voilà, je veux me placer comme le morceau de ferraille sur l'enclume. Tu vas le façonner. Nous avions un ami dans la famille, c'était un ferronnier d'art. Et il arrivait à faire rougir un morceau de métal, non pas en le passant au feu de la forge, mais simplement en le frappant. Voyez. Et quand le métal est rougi, il devient malléable. Et il lui donnait une forme exquise. C'était un artiste, ce gars-là. Dieu est un artiste, mes amis. Alors acceptons de monter sur l'enclume et disons, Seigneur, façonne-moi. Alléluia. Je veux entrer dans ton programme. Je veux entrer dans ton plan. Je veux trouver le salut. Bon, d'accord, je l'ai trouvé. Gloire à Dieu. Mais aide-moi, oh, à m'y attacher de tout mon cœur pour le garder, ce salut si précieux, si merveilleux. Et aide-moi à faire des progrès. Je ne veux pas seulement me désoler en me disant, oh frère, je suis si loin du compte, je suis encore si misérable, oh, j'ai perdu la flamme du premier amour. Oh. Ça ne sert à rien de se désoler si on en est toujours à faire le même constat. Dieu va dire, arrête, ça suffit, il y a un moyen de sortir de l'ornière. Il y a un moyen pour toi de sortir de tes travers. Tu peux faire des progrès, je vais te prendre en main. Me laisses-tu te prendre en main? Telle est la question. Est-ce que nous donnons réellement à Dieu tous les droits sur notre vie pour qu'il agisse comme il l'entendra? Seigneur, tu as le feu vert, je me livre entre tes mains. Vas-y, travaille. Comme bon tu le penseras, et le Seigneur fera en sorte qu'il en soit ainsi, et nous ferons des progrès. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur quelques instants. Voulez-vous? Notre Dieu, notre Père, nous te rendons.